50 années d'art moderne. On a donc allé au XXe siècle et travaillé sur la période 1920-1970. J'ai choisi cette période-là parce qu'on avait déjà travaillé dans des ateliers antérieurs, car cet atelier est quand même le 34e du nom. Hein. Enfin, un moment qu'on passe ici. Hein. On avait déjà travaillé dans des ateliers sur la période avant et la période après. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, hein. Mais on a déjà travaillé sur le début du XXe siècle. On a aussi travaillé sur la fin du XXe et même le début du XXIe. Alors, il fallait un peu varier les genres. Hein. Et c'est donc sur 5 décennies sur lesquelles on n'a pas beaucoup œuvré que l'on va cogiter pendant ces 5 séances. Alors, je pense que ce que l'on va faire, en tout cas c'est comme ça qu'on va commencer aujourd'hui, c'est s'intéresser à quelques-unes des grandes tendances qui ont marqué l'art occidental dans cette période, car c'est bien l'art occidental dont nous allons parler. Hein. C'est déjà un sujet assez important. Hein. Et puis c'est, à vrai dire, le sujet le mieux connu, à vrai dire l'art oriental ou africain, etc., de ces périodes-là. Une chose encore peu documentée, peu étudiée, dont j'aurais du mal à faire un atelier là-dessus. C'est donc bien en Occident qu'on va évoquer ces différents courants artistiques. Alors, comme d'habitude, on n'aura pas le temps de tout voir, parce que voilà, le sujet est quand même important. Hein. Mais enfin, on va, je pense, défricher pas mal le terrain. Alors, aujourd'hui, c'est d'un courant artistique qui a une grande importance dans ces années-là, 1920-70, dont nous allons parler. Comme souvent, j'ai préparé une 20-30 de diapositives d'œuvres que j'ai placées, pour cette fois en tout cas, dans l'ordre chronologique et qui vont nous permettre de découvrir ce courant à travers quelques-uns des artistes les plus importants du genre. Alors, on va essayer de voir quelles sont ces œuvres, ce qu'elles disent, quels sont les artistes peut-être, et finalement, quelles sont les logiques, les caractéristiques de ce courant-là. Ok ? Je vous montre une première œuvre. Effectivement, vous avez là un fer à repasser.
Avec des vis.
Mais un fer à repasser, effectivement, un peu spécial. Bon, parce que qu'est-ce qu'il a ? Vous savez qu'il faut tout me dire. Hein, vous me dites un fer à repasser, très bien. Mais il faut que vous me disiez un peu de quoi il s'agit. Hein.
C'est du surréalisme.
C'est du surréalisme.
Alors, effectivement, c'est un objet très surréaliste. Mais ce fer à repasser, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il a des clous.
Il a des clous. Et ce qui veut dire quoi ?
Il est inutilisable.
C'est-à-dire qu'il est inutilisable. Donc, est-ce que c'est vraiment un fer à... Est-ce que vous voyez que c'est un fer à passer ? Moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas un fer à passer. C'est quoi, donc ? Oui, mais encore.
C'est un objet utilitaire qui a été détourné de sa fonction,
voilà,
pour montrer, ouais, autre chose.
Voilà. Et ce qui veut dire que puisque c'est évidemment un objet utilitaire et ça fait effacer, mais qu'il n'en est plus un du fait de ce que lui a fait subir, ça devient donc un objet, mais quoi comme objet ?
Une torture.
Pardon ?
Une torture.
Un objet de torture, en tout cas de torture pour la chose qu'on s'en est passé avec.
Hein. Décoratif.
Ouais. Et donc, c'est un objet décoratif, finalement, c'est quoi ?
Ça devient de l'art.
Ça vient de l'art, donc ça devient quoi ? Une sculpture.
Ah ben oui, d'accord.
Ce que vous avez, c'est une sculpture, finalement. C'est une sculpture.
Oui, c'est un
ascenseur. Ah, bah oui, une sculpture. Soit vous prenez un bloc de marbre, vous tapez dedans, soit vous prenez un objet. C'est une sculpture. On aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Hein. C'est une sculpture.
Ah oui,
oui. Là, on est dans un actuel. Tiens, je n'ai pas passé nos vitrails. Je fais toujours un instrument.
Oh, les connaissez.
Mais vous les connaissez. Hein, voilà. Mais voilà, donc le problème n'est pas d'aimer ou de pas aimer. En vrai, c'est un problème individuel pour chacun. Hein. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Mais c'est une sculpture. Voilà.
De type ogival.
Pardon ?
De type ogival.
Oui, effectivement, le fer à repasser a un côté gothique. Bien. Donc, effectivement, vous avez raison, on a un objet qui est un fer à repasser, qui a été détourné de sa fonction, qui donc n'est plus un fer à repasser, qui a donc une dimension décorative, et donc c'est une sculpture. Bien. Tout comme un boulanger fait du pain, alors il est bon ou il n'est pas bon, un artiste fait de l'art, là, une sculpture, on aime ou on l'aime pas, mais ça, chacun ses goûts. Pourquoi faire ça ?
Pour provoquer.
Provoquer ? Ouais. que
pour faire réfléchir.
Et qu'est-ce que à quoi peut faire réfléchir un objet comme celui-là?
Eh bien que le repassage, c'est une torture.
Donc c'est vrai.
Ok.
Je ne crois pas que c'était son.
Ok.
La différence entre les choses et la représentation aussi.
Oui, c'est-à-dire que ça nous questionne aussi sur les objets, parce que finalement un objet comme ça, ça va repasser, et il suffit de faire un petit truc, planter 10 clous, et paf, ça dit autre chose. Quoi. Donc finalement, les objets sont des choses très caduques, hein, qui très vite passent d'un statut à un autre. Il ne suffit pas faire grand-chose, et puis c'est déjà autre chose. Mais évidemment, ça nous fait réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il y a encore d'autres dimensions que vous voyez là-dedans?
On passe du lisse à l'épineux.
Oui, effectivement. Donc il y a quelque chose de, j'allais dire, de sensuel, hein, qui fait travailler les sens. Un affaire à repasser, alors non, ça brûle, hein, mais quand c'est pas chaud, ça brûle pas, et c'est tout lisse. Là, évidemment, que quelqu'un d'entre vous le disait tout à l'heure, c'est vraiment un objet de torture, quoi. C'est un objet qui vient de, je dirais, de balanement utile, c'est un objet qui vient désagréable. Quoi.
Ça veut dire aussi, si n'importe quel objet peut devenir une œuvre, n'importe qui peut devenir un artiste.
Ah bah, à partir du moment où on dit qu'on est artiste, on dit qu'on est artiste. Parce que moi, ça ne me gêne pas si tous ici vous dites « je suis artiste ». Après, vous faites des œuvres d'art parce que vous êtes artiste. Après, je les trouverai intéressantes ou pas, mais c'est tout. Encore une fois, n'importe qui d'entre vous peut dire « je suis boulanger ». Voilà. Après, vous ferez du pain que je trouverai bon ou pas bon, mais ce n'est pas interdit d'être boulanger. Voilà. Artiste, c'est pareil. Hein. L'artiste, c'est pas quelqu'un qui sert à la société. L'artiste, c'est quelqu'un qui fait un travail qui est de l'art. Voilà. Les boulangers font un travail qui est du pain. Voilà. Alors après, le pain est bon et pas bon. On dit ce boulanger-là, il ne faut pas y aller, on n'y vient pas. Voilà, c'est la même chose. Hein. L'artiste, il fait de l'art, comme le boulanger fait du pain. Voilà. C'est, effectivement, c'est pas. Donc n'importe qui peut intervenir, n'importe qui fait du boulanger. Voilà. C'est effectivement pas plus compliqué que ça. Il y a peut-être une dimension dans un, devant une œuvre telle que celle-ci.
Un côté dérisoire, non?
Oui, un côté dérisoire. C'est un côté humoristique, finalement. Un côté humoristique dérisoire, parce que vraiment, les faire passer, on en a tous, quoi. Enfin, peut-être plus comme ça, mais voilà. Hein. Donc, c'est vraiment faire d'un objet aussi dérisoire, un objet auquel, enfin, si on pense à, on pense à tout, sauf à faire passer. Et bien là, c'est justement lui qui devient faire passer.
C'est pas une critique quelque part de l'évolution de la société technologique?
Pardon?
C'est pas quelque part une critique aussi de l'évolution technologique?
Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui peut nous faire penser à ça, effectivement. Alors, j'allais dire qu'il y a peut-être plus de technologie qu'un phare repasser, oui, si vous voulez. Surtout ceux-là qui sont des fossés qu'on met sur le. Voilà, c'est pas des super objets sur le corps. Mais il y a quand même ce que vous dites, c'est-à-dire c'est un peu une manière un peu aussi de s'interroger sur un type de société. Hein. En l'occurrence, une société industrielle qui voulait les faire repasser, parce qu'ils pourront repasser ses habits, parce qu'ils ont repassé ses habits. On peut parler ou pas. Voilà. Donc il y a quand même effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire une interrogation, peut-être pas par ce qu'est l'objet lui-même, parce qu'on est quand même pas là devant une machine très compliquée, mais parce que cette machine, cet objet, veut dire de la société dans laquelle on est. Hein. Finalement, le faire passer, c'est le pied de la société dans ces années-là. Hein. Encore une fois, pour aller au bureau, enfin, une chemise blanche, je repassais avec une cravate. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas au bureau. Vous ne pouvez pas être 40, par exemple. Donc le faire passer, c'est un élément social, effectivement, qui quelque part est un pilier d'une société industrielle de ces années-là. Hein. Donc ce que vous dites est effectivement assez juste, je crois. Hein. Ben, je crois qu'on a bien vu hein, toute une série d'éléments qu'il y a dans cette œuvre-là, hein, depuis la dérision, j'allais dire le côté un peu rigolo, quoi, d'utiliser un objet du quotidien pour le transformer comme ça. Le côté un peu grinçant, hein, c'est un objet de torture, etc. Mais aussi, j'allais dire, une certaine critique de la société en présentant un objet qui en vient et qui est banal, que tout le monde a, hein, donc qui nous concerne tous. Personne ne dira, je ne sais pas ce que c'est comme objet, tout le monde saurait ça faire. Donc il y a tout ça dedans, je crois que vous avez bien souligné ce que c'était. Alors maintenant, est-ce que vous avez une idée de quand ça a pu être fait? Une vague date? Parce qu'on parle de 50 ans, là, mais en 50 ans, il y a 50 ans. Donc voilà. Et est-ce que vous avez une idée de l'artiste qui a fait ça?
C'est Duchamp.
Duchamp. Eh bien, on va voir si c'est Duchamp. C'est marché Duchamp. Bravo. Voilà, alors en plus, ça s'appelle le cadeau. Vous comprenez l'ironie du titre. Le cadeau. Pardon ?
Il aurait pu rajouter pour la fête des mères.
Ben, par exemple. Mais c'est pas faux ce que vous voulez dire. D'ailleurs, Sergent, vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est le type même, vous savez, de moi quand j'étais petit, le nouveau verre passé qui faisait pchit et qui s'allumait, c'était le pisographe, il fallait offrir ça pour la fête des mères. Quoi. Voilà. Donc, effectivement, c'est un objet qui, mine de rien, dit beaucoup de choses.
Exactement.
Bien. Vous voyez, c'est un objet qui date de 1920. Ça a plus d'un siècle, ça. Hein, plus d'un siècle. Non, on est en 24, ça a plus d'un siècle. Parce que quand on voit sur l'objet aujourd'hui, oh, bah, c'est un Zazou qui a fait ça il y a 15 ans, quoi. Pas du tout, ça a plus d'un siècle.
Oui, il n'a pas fait que ça.
Oui, il n'a pas fait que ça. Hein. Donc ça, c'est une œuvre complètement classique que vous avez là. Hein. Pas du tout une œuvre d'un artiste déluré. Pas du tout, c'est absolument classiquissime. Hein. D'un mec qui en plus est mort à Neuilly-sur-Seine, vous voyez, c'est pour. Bien. Alors.
C'est un collage.
Ouais, ils sont de collage, effectivement. Alors c'est pareil. Cette pièce-là, hein, qui est effectivement un collage, est-ce que vous pourriez dire quel est le but, qu'est-ce qui est dit derrière ce collage-là?
Il y a déjà une accumulation.
Une accumulation, déjà, oui. Important, ça.
Une unité de couleur.
Oui, aussi.
Oui.
Important ce que vous dites, parce que c'est tout sauf, comment vous dire, il y a peut-être une dimension de hasard, mais vraiment pas que. Hein. Il y a aussi une dimension chromatique, vous voyez.
Il y a beaucoup de typographie.
Donc artistique, pardon.
Il y a beaucoup de typographie.
De typographie aussi.
Et ça se dilue dans le beige.
Oui, oui.
C'est de la récupération.
C'est de la récupération. D'ailleurs, c'est comme l'objet précédent. Hein.
Oui.
Sauf que l'objet précédent, c'est un fer récupéré qui devient une sculpture. Là, c'est des bouts de papier que vous jetteriez à la poubelle, hein, qui sont utilisés pour faire une œuvre. Voilà, des éléments de calendrier.
Des
éléments de journal. Voilà, donc des enveloppes.
Du carton.
Du carton.
Ça, c'est un mélange de pièces d'identité et de paquets, donc ça peut la poste. Parler sur l'échange entre les pays ou pas.
Oui, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que le fait qu'il y ait des éléments où il y a marqué des choses, hein, des dates, des lieux, fait que l'imaginaire, en regardant ça, bouge dans le temps et dans l'espace.
Oui.
C'est ça?
Mm-hmm.
Oui, c'est vrai.
Il y a un petit portrait.
Il y a
un petit portrait.
Oui, ça, oui, c'est l'argent. Une photo de... Oui, là... Il doit y avoir quelque chose là, de dessous, là, il y a un dessin, enfin voilà.
Hein,
peut-être bien, oui. Oui, là-haut.
Voilà.
Donc, effectivement, vous avez bien senti le fait que dans ce collage, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, il y a une dimension proprement, j'allais dire, enfin, de recherche de couleurs et de composition. C'est pas plouf comme ça, hein. Il y a ça, on a choisi notamment des papiers de couleur. Alors, ils ont peut-être jauni depuis,
oui,
hein,
oui, oui.
Mais malgré tout, il y avait bien une couleur et qui dit qu'il y a toute chance d'avoir été un peu équivalente. Bien. Mais il y a également le fait que, puisqu'il y a des morceaux de mots qui peuvent intriguer, d'ailleurs, ce EN là, c'est quoi, des dates, des photos, etc., tout ça raconte une histoire, une histoire à laquelle on ne fait pas attention. Hein. Des journaux, on les jette à la poubelle tous les jours. Hein. Pourtant, tous ces journées, ils contiennent 1000 histoires de 1000 personnes. Et on les jette. Et ce que nous dit ça, finalement, c'est que, bah, tiens, des objets aussi anodins que des bouts de papier sont pas si anodins que ça, justement. Ils disent des choses intrigantes, étonnantes, mystérieuses, bizarres. Donc voilà quelque chose qui est une œuvre d'art, en sens qu'il y a une composition, il y a une chromatique, là, mais en plus, qui nous dit des choses, qui nous... C'est un peu comme tout l'art, quoi, qui nous incite à comprendre, à connaître, à découvrir, à nous poser des questions.
Ça rejoint à l'idée du fer, c'est complètement banal, enfin, le matériau...
Oui, tout à fait, absolument.
c'est effectivement
c'est
des matériaux
nobles.
Absolument, c'est des matériaux absolument triviaux. Hein. C'est vraiment un fond de poubelle, quoi. Absolument, tout à fait. Donc c'est si vous voulez, c'est des choses qui, un peu comme l'affaire Arpacé, peut-être pire encore, entre guillemets, hein, mieux encore, a pour but de montrer que si on croit que l'art, c'est forcément fait avec de l'or, de l'argent, ou de la belle peinture à l'huile, etc., on se trompe. Parce que c'est pas vrai. L'art, c'est fait avec tout. Tout comme n'importe qui peut être un artiste, n'importe quoi peut faire art, n'importe quel matériau. Les matériaux de l'art, c'est pas l'or, l'argent, le bronze. C'est, ça peut être, mais pas que. Donc évidemment, la trivialité du matériau est importante. Alors là aussi, est-ce que vous avez une idée d'une date? Il y a des tas de dates, mais il n'y a pas d'année. 1920 dans les années 20. Ah, il y a 1920.
Donc c'est,
ça, c'est le terminus antequem. Bon, bah donc. Moi, je ne l'ai pas vu.
Les écritures, bah, au tiers, en bas à droite, il y a 1929. Avancez encore un peu, tout à fait au bas.
Ah là.
Voilà, 1929.
Alors, je pense que c'est une autre date, mais on va voir. Et est-ce que vous avez une idée du lieu où ça a été fait? Du lieu, parce que de quel pays? On est en Occident, on l'a vu, mais l'Occident c'est grand. Et oui, donc est-ce que vous avez une idée? La date?
Allemagne,
la
Suisse.
Allemagne?
Un pays
Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous fait penser à l'Allemagne?
À cause des dates.
Ouais. Donc a priori, Allemagne. Vous aviez un nom?
Schwitters.
Kurt Schwitters. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est l'auteur de cette œuvre, effectivement. Ça, c'est bien de Kurt Schwitters, un artiste, effectivement, allemand. Il est né en Angleterre, mais il est né en Allemagne. Le point sur le... Alors, en fait, c'est 39. Et en fait, la date, là, c'est 39. De près, on le voit, de loin, c'est moins évident. C'est 1939. Bon, pas 1939. Enfin, bien. Kurt Schwitters. On va peut-être regarder une troisième œuvre hein, pour continuer à rentrer dans le sujet.
Ah oui, ça c'est américain. Il y a du collage.
Collage encore.
C'est américain, c'est
ce mais avec une reconstitution de profondeur.
Absolument.
Tout à l'heure, c'était au contraire très plat.
Voilà, c'est-à-dire que le collage qu'on avait avant était... Même si c'était organisé, hein, un collage de voilà, mais un collage abstrait, si j'ose dire. Hein. Là, c'est un collage, c'est des éléments glanés à droite et à gauche, mais qui reconstituent une sorte d'intérieur. L'idée, c'est quoi là? Pardon? Oui, effectivement, ça représente un couple, alors pas n'importe quel couple. Hein.
Non,
hein,
il y a un
bodybuilder. Voilà, il y a un bodybuilder au premier plan. Hein. C'est The Mec. Hein. Et puis. Et puis une pin-up. Voilà. Donc c'est le couple idéal, forcément. Hein. Tel qu'on nous l'impose à cette période-là.
Stéréotype.
Complètement stéréotype. En fait, c'est une scène recomposée, stéréotypée, à partir de stéréotypes. L'artiste qui a fait ça, il a découpé dans des journaux, magazines, etc., toute une série d'éléments absolument stéréotypés pour reconstruire un super stéréotype. Ok. Est-ce que là aussi, vous avez une idée de la date et de l'auteur?
Un américain,
je me souviens plus quand. Oui, c'est un américain. C'est les années 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Américain, c'est les 50. Si vous aviez à donner un titre, ça me dirait quoi? On a vu le point sur les i, le cadeau.
Modernité.
Oui, le rêve américain.
Oui.
Couple parfait.
Pardon. Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu.
Le couple parfait.
Ah, le couple parfait. Absolument.
Oui, il y a le...
Donc ça montre la réussite.
Oui, une espèce de réussite.
Oui.
En même temps, si j'ose dire, puisque vous me dites que c'est un américain, c'est assez cool. Hein. C'est cool.
Bah,
elle est vraiment très.
Maigrelette.
Ah bah oui, mais l'heure est à ça, hein, à la maigrelesse, si j'ose dire, à l'époque. Hein. Voilà. Mais non, mais c'est cool parce que vous voyez, on n'est pas dans un R15D ou les gens, etc. On est libéré, quoi, hein, quand même. Hein. Et puis on a la radio, il y a un phonographe, il y a, je crois qu'il y a une télé quelque part, ou quelque chose qui va. Enfin bref, il y a tout ce que le confort moderne vous permet d'avoir pour avoir une vie sympa, quoi. Hein.
Ah ouais, puis il y a l'ascension sociale avec l'escalier.
En plus, il y a l'escalier qui mène une chambrette qui se voit. Puis vous avez vu qu'il y a une femme qui est en train de passer l'aspirateur. Donc c'est en plus c'est propre. C'est propre.
On est obligé d'avoir un regard actuel sur l'homme, par exemple. Vous dites que c'est cool, c'est pas si cool que ça. Mais l'homme là, alors l'homme parfait, enfin le couple parfait.
Oui, bah, c'est un peu dérisoire.
Parce que là, franchement, c'est ridicule. C'est pas la femme.
Alors, évidemment, ce que vous avez là est quelque chose de critique. C'est-à-dire que ce que vous avez là, puisque c'est une collection de stéréotypes. Pour faire un super stéréotype, puisqu'on accumule les stéréotypes pour en faire un encore plus gros, c'est effectivement pour nous faire réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est cette société-là à laquelle on veut ? Une société où il faut être bodybuilder, sinon on n'est pas regardable. Ou alors il faut être maigrichonne, autrement il ne faut pas être vu. Où il faut avoir forcément les derniers outils du confort modèle, de l'aspirateur au phonographe. Est-ce que hors de ça, aujourd'hui on parlerait de Rolex et je ne sais quoi, hein, est-ce que hors de ça, pour une salle, si vous voulez, hein, en fait ce qui est dit là pourrait être dit aujourd'hui de la même manière. Hein. Donc vous avez raison, hein, c'est une, on a là quelque chose qui est tout à fait critique, c'est une critique de la société, en fait, hein, la société de consommation, mais une critique là aussi, et on va revenir un peu sur ce qu'on disait pour le cadeau, un peu ironique et un peu drôle. D'ailleurs, le titre, moi, à chaque fois que je le vois, je vous le... On fait une crayon du deuil. Pardon ? Oui, c'est vrai qu'il y a le côté m'as-tu vu, le mec. Mais, oui, le titre, il a toujours abusé. Le titre, c'est « Qu'est-ce qui peut bien rendre nos foyers d'aujourd'hui si différents, si sympathiques ?» Je trouve ça... Vraiment, ça me fait rire à chaque fois. Oui, c'est comme ça. Et je trouve que le titre, il dit tout, il accompagne très bien. Et il va dans la dimension ironique que vous pointiez il y a un instant. Hein. Parce qu'évidemment, voilà, c'est évidemment les images qui sont colportées par des magazines, une télévision naissante. Voilà, hein, voilà la perfection de ce que nous impose. Alors, l'auteur Richard Hamilton, il est en fait anglais. Hein. Voilà. Et alors, est-ce que justement, quand vous voyez cette œuvre et les œuvres antérieures, vous commencez à voir peut-être quel est le courant artistique dont nous sommes en train de parler finalement ? Est-ce que c'est trop tôt encore pour l'imaginer ? Cette œuvre est donc considérée un peu comme une icône de ce courant artistique. Ça, c'est une œuvre super célèbre. Dans l'histoire de l'art du XXe siècle, vous trouverez ça. Ça, c'est... Là, on est devant une des Jocondes du XXe siècle. Hein. C'est vraiment une œuvre fondamentale. Ah oui, si, non. Là, ce que vous voyez là, c'est une des œuvres fondamentales du XXe siècle. C'est clair.
Attention à la soupe.
Pardon ?
Attention à la soupe.
Oui, j'allais dire.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah oui, à la soupe. Oui, on va. Vous savez, aujourd'hui, les gens font tout n'importe quoi, surtout n'importe quoi.
C'est déjà une rupture par rapport à l'art d'avant.
Oui. C'est déjà une rupture consommée. Est-ce qu'on est en 56 hein. Alors, c'est pas l'hier, 56, j'en sais quelque chose, trop bien d'ailleurs. Mais voilà. Hein. Et vous rappelez, on a vu avant le fer à passer, il était 1920. Hein. Donc c'est bien la même idée. Hein. Finalement, on a dit la même chose là que pour le fer à passer.
C'est une critique de la consommation.
Oui. Et justement, cette attitude qui vise à critiquer la consommation, la société, en la montrant de manière presque écœurante, de manière rigolote aussi, et de manière dérisoire, pour s'en moquer. Quel est ce courant artistique qui travaille ça?
C'est pas le dadaïsme?
Alors, c'est vrai que le dadaïsme, et on pourrait dire par exemple que d'ailleurs quelqu'un a peut-être prononcé le mot tout à l'heure, le faire repasser tout à l'heure, quelque part il était dada.
Oui,
vous savez ce que c'est que le dadaïsme, hein. Oui. C'est un courant mais qui est peut-être un petit peu antérieur, même s'il continue assez tard, hein. Il y a encore des dadas aujourd'hui. Hein. Mais le dadaïsme est un courant artistique qui a pour but effectivement d'être bête et méchant, quoi, hein. Et poétique en même temps, c'est ça le dadaïsme. Hein. C'est une manière, effectivement, et on peut dire que le courant qui nous intéresse là, et ce qui va prendre en charge le dadaïsme et le poursuivre d'une certaine manière, hein. Le dadaïsme c'est déjà d'une certaine manière ça, mais c'est un courant qui va... J'allais dire, oui, prendre le relais de cette manière.
Je suis surréaliste.
Alors, c'est vrai que le premier objet était quelque part surréaliste. Hein. Mais les surréalistes, alors là, j'allais dire, passent la vitesse d'une sorte de poésie onirique. Les pensées, évidemment, au Max Ernst et autres Dali, hein, qui nous emmènent dans des voilà, territoires. Voilà. Là, on est vraiment, on parlait de soupe il y a un instant, hein. Vraiment, on est justement dans la soupe, d'une certaine manière. Hein. Vous voyez, il y a un côté... là, il n'est pas trop question de poésie, à moins que, à force de critiquer ce qui n'est pas poétique, ça le devienne. Vous disiez quoi? Oh, oui et non. Parce que vous savez, par exemple, longtemps, on a pensé que des photos qui montrent des usines et tout ça... C'était des choses les plus épouvantables du monde. Enfin, voilà comment. Et finalement, oui. Les artistes, je pense à Tom et la Bécha, finalement, notamment, ont fait des photographies d'usine qui sont extraordinairement poétiques. Oui. Donc, non, je crois que tout est une manière de montrer. Et puis finalement, l'humour, ça peut être aussi de la poésie. Hein. Il y a des tas de poètes qui ont travaillé sur la drôlerie, sur l'humour. Donc, je crois que, voilà, il y a vraiment des possibilités. Bon, mais on va regarder on va peut-être trouver un peu plus loin le nom de ce courant.
Est-ce qu'il existe un courant qui tournerait autour du négatif?
Quand vous voulez dire du négatif, c'est des choses négatives?
Ouais.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un amortissement, parce qu'on est en 56,
ouais.
On n'est pas loin de la guerre,
ouais.
Et un amortissement de tout ce qui a été surhumain du nazisme, etc. Vous voyez oui. Tous les gens... dans cette tenue.
Oui, alors, c'est on est 10 ans après la guerre, hein, la fin de la guerre. Oui, il y a un petit peu de ça. En même temps, c'est un moment où on ressouffle, si j'ose dire, 10 ans après la guerre. On se dit, on est quand même sorti.
Et on commence à avoir un petit peu des moyens de faire mieux qu'avant.
Absolument. On se rend dans les Trente Glorieuses, effectivement. Hein. Donc en même temps, c'est le moment où on est tellement à se dire, on est sorti, ça a été tellement épouvantable que, on peut acheter un aspirateur, un fer à repasser, courir, c'est chouette quand même. Hein. Donc en fait, c'est vachement chouette. Ce qu'il nous montrait à Hamilton, c'est vachement bien. C'est ce que je veux que tout le monde aspire. Ben oui. Aujourd'hui, tout le monde aspire à avoir 50 portables. Il se passe la même chose aujourd'hui. On est les mêmes, ni les craintes. On peut se moquer d'Hamilton, mais il nous montre ce qui se passe aujourd'hui et ce que nous désirons tous. On est des Hamilton. Vous voyez, c'est la même chose. Mais c'est vrai, après la guerre, vous avez raison, hein, après la guerre, on souffle, on peut acquérir un réfrigérateur et un aspirateur. C'est quand même drôlement chouette. Ce que nous disent ces gens-là, c'est que c'est chouette, mais peut-être pas exagéré. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'ils nous disent. Avec humour, avec... Voilà. Et ils nous le disaient d'ailleurs avant la guerre. C'est ce que nous disait déjà Duchamp, finalement. Hein, rappelez-vous, hein. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, est-ce qu'il y a comme ça un courant artistique qui travaille pour montrer le négatif? À vrai dire, je ne crois pas trop. Je ne pense pas qu'il y ait des courants artistiques qui montrent le négatif ou le positif. Je crois qu'il y a un peu les deux, si vous voulez. Parce qu'il y a aussi là-dedans, je pense notamment à l'œuvre de Kurt Schwitters, qui est un vrai poète, Kurt Schwitters. Et si vous voulez, il y a vraiment une dimension de comment dire, de joliesse, de mélancolie, etc. Vous voyez et en même temps, on voyait à date 1939, on sait à quoi ça fait référence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment de courant qui est le négatif ou à l'adresse le positif. Je crois que les deux peuvent être contenus dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être le cas de ça, d'ailleurs. C'est une accumulation. Accumulation, déjà, on en parlait tout à l'heure, vous rappelez. Hein. Et on a vu que l'accumulation était peut-être, il y en a d'autres, hein, une des caractéristiques des œuvres de ce mouvement. Là, il y a une accumulation. De quoi ?
Le masque à gaz.
Sympa.
Là, on revient à la guerre.
Alors, effectivement, ce genre de choses rappelle évidemment de très mauvais souvenirs. Alors là, pour le coup, on pourrait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà une œuvre qui... Oui, ça plombe. C'est vraiment plombant.
C'est très militaire, c'est aligné.
Ouais, très militaire, aligné, etc. Vous allez me dire, ça plombe. Alors, ce genre de truc, il faudrait en voir un peu plus pour arrêter nos... Pardonnez-moi l'expression, arrêter nos conneries. Hein. Parce que vous avez remarqué que depuis quelques temps, on continue, quand même. Hein. Et qu'on n'est pas à rampiner encore. Hein. Vous avez remarqué comment on est, nous autres, les sémistes. Hein. On est en permanence comme ça. On a beau nous montrer ça, qui devrait nous doucher une bonne fois pour toutes, on devrait être vacciné. Hein. Eh bien, on recommence. C'est quand même fou. Il y a des artistes pour nous dire ça, qui quand même nous montre de manière définitive qu'il faut arrêter. Et bien on re-signe. On re-signe. Vous voyez le monde actuellement ? C'est fou, hein ? On est capable de remplir. C'est vraiment incroyable.
Il faut travailler le on aussi.
Ah mais bien sûr.
Travailler le on.
Ah oh, ben le on, il est hélas très très large. Très très large. Mais c'est vrai que le on compte beaucoup.
Parce que dans le même esprit, ça fait penser à Boltanski, là,
sur... Absolument, vous avez raison. Ouais. Alors, Boltanski, on avait pas mal parlé dans un atelier précédent. On avait fait une séance, vous rappelez peut-être certains d'entre vous, on avait une séance spéciale sur lui. Enfin, en tout cas, à un moment d'une séance spéciale sur lui. Et vous avez raison, ça fait beaucoup penser à Boltanski, mais c'est avant. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un, ça ?
Peut-être Armand.
Armand, c'est Armand. Armand, vous le connaissez sans doute, d'abord parce qu'il y a, par exemple, une grande œuvre de Armand à Dijon. Hein. Vous savez, sur le campus universitaire,
ah oui.
Il y a plusieurs sculptures, très intéressantes d'ailleurs, hein, dont un très beau Armand. Et puis Armand le connaît aussi, parce que si vous prenez le train, si vous allez à la gare Saint-Lazare, dans la gare Saint-Lazare, il y a une très belle sculpture d'huile, vous savez, des quantités de cadrans, voilà. Hein,
plus les valises aussi.
Pardon,
les
valises aussi. Les valises, les voilà. Donc Armand est vraiment un artiste. Alors, il a été plus intéressant au départ qu'il a été après, parce que c'est devenu après une sorte de... Bon, il a fait des accumulations de tout et rien, c'est devenu un peu commercial. Mais là, on est en 1960, hein, devant une œuvre, effectivement, radicale, hein, et qui, effectivement, devrait, je crois... Alors là, pour nous faire réfléchir, etc., il y a de quoi. Alors, est-ce que cette œuvre-là, vous... dit des choses sur ce courant artistique dont on essaie de trouver le nom.
Le nouveau réalisme ?
Alors, on jouxte ça, effectivement. Hein. On jouxte le nouveau réalisme. Hein. Mais, et Armand en fait partie de ce courant-là. C'est-à-dire que le nouveau réalisme est un élément qui appartient à ce courant plus important. Le nouveau réalisme est une chose très française. Hein. Là, Armand est un nouveau réalisme, il n'est pas le seul, il y en a un autre, au moins, enfin, il y en a d'autres. Un autre dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais Armand, comme d'autres gens du réalisme, appartient à un grand courant de l'art occidental, et c'est ce courant-là dont on... Je vais essayer de trouver le nom, mais on continue. Ouais.
C'est noir et blanc, c'est une...
Non, il y a
du
beige. C'est pas monochrome.
C'est pas tout à fait monochrome, effectivement. Il y a une petite touche un peu marron hein, qui vient exciter un peu la monochromie du tableau. Hein. Alors vous avez raison, là c'est de la peinture. J'allais dire, on souffle. Hein. Wow. Fini les collages, les masques à gaz et autres fer à repasser. On est devant une peinture. Donc ça, c'est de la peinture. On retrouve un médium traditionnel. Ah, on respire. Hein, voilà. Il faut ça de temps en temps quand même. Hein. Trouver la bonne tradition, ça fait du bien. De temps en temps, hein. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on représente cette peinture ?
Un 5.
Ça représente évidemment un 5. Alors, ça n'est pas une pub Chanel.
Oh, bah.
Je suis désolé. Mais voilà. Hein, vous voyez effectivement le chiffre 5. Alors, il n'est pas très clairement visible, mais il apparaît. Il transparaît. Alors, c'est bien 5, hein, vous voyez dessus. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Pourquoi ? Alors, ce n'est pas un petit tableau comme ça, hein. C'est grand comme ça.
Hein.
Ça fait 1,50 m, 2 mètres de haut. Hein. Pourquoi consacrer un 5 à un tableau ? Pardon ? Ah, il y en a d'autres qui est à côté pour faire 1925, par exemple. Eh ben non. Enfin, vous pouvez en avoir plusieurs. Mais si vous avez les moyens, il n'y a pas de problème. Hein. Il faudra un peu 3 sous. Hein, mais bon. Voilà, l'idée n'est pas de représenter une date ou un nombre en mettant plusieurs tableaux côte à côte.
Pour les 5 continents.
Oui, ou les. Alors, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce 5, vous faites déjà d'Amberger. Remarqué, hein. Vous avez pensé aux 5 continents, vous pensez à un nombre qui pourrait être fait à partir de plusieurs chiffres, vous avez pensé à une numéro 5 de Chanel. En fait, il se passe exactement ce que le peintre a voulu qu'il se passe. Pardon ? Pardon ? C'est-à-dire que.
Il faut divaguer.
On vous montre un signe. À vous de jouer. Et en plus, c'est un signe d'une banalité. Parce qu'à Belay, il n'y a pas un jour, on ne voit pas un 5. Donc 5, ça va, quoi. On sait ce que c'est qu'un 5. Hein. Donc là, vous avez un 5, c'est-à-dire quelque chose dont on ne peut plus. Ben là, c'est le coup de faire passer tout à l'heure. Hein. Et on fait de ce 5, hein, que vous voyez tous les jours, toutes les couleurs, on fait de ce 5 un tableau. Et pas un tableau, peint à l'huile sur toile, là. Un vrai tableau de vrai, comme à la Renaissance. C'est-à-dire qu'on utilise les techniques les plus académiquement sacrées pour faire le signe le plus banal. Vous voyez ? Finalement, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Toujours pareil.
Mais ça permet aussi d'avoir un geste, parce que le peintre qui a fait ça, il a développé un geste important.
Oui, alors vous avez raison de le dire. Il y a vraiment de la touche. Il y a de la touche. Parce que vous voyez, effectivement, on est vraiment dans une peinture, quoi. C'est peint, hein, on voit. C'est comme un fragonard. Hein, on voit des touches comme ça. Enfin, voilà. Hein, c'est pas une peinture lisse, là. Il y a de la touche. Donc,
c'est ça qui naît d'un geste.
Oui, absolument. On sent le geste du peintre. Hein, voilà. C'est un peu comme si on regardait très près un tableau impressionniste, par exemple, et qu'on voit les touches qui se font. Hein. Donc le peintre, il a voulu, j'allais dire, grossir la focale pour qu'on voit d'encore plus près ce qui fait l'essence même de la peinture, c'est-à-dire des touches plus ou moins colorées, hein, côte à côte. Donc effectivement, ce chiffre 5, banal entre tous, devient magnifié par la peinture. L'idée n'est pas très nouvelle. Hein. Quand au Moyen-Âge, on prend un homme ou une femme qu'on fait son portrait, c'est pour le magnifier. Oui. Même si c'est un homme et des femmes, on en voit tous les jours. On est d'accord. Bon. Et c'est pour prendre cet homme, cette femme et en faire quelque chose, faire sortir du lot. C'est ce que fait l'artiste avec le 5. Mais justement, il prend le banal pour en faire l'exceptionnel. Il prend le quotidien pour en faire quelque chose de spécial.
Avec des couleurs, c'est sûr.
Allez, voilà, avec un minimum de couleurs. Parce qu'en plus, c'est là que c'est assez fort, hein, c'est qu'il n'y a pas la séduction de la couleur. Parce qu'évidemment, il y aurait du jaune, du bleu, du rouge, on dirait, ouais, c'est coloré. Ce serait séduisant. Alors là, c'est pas séduisant. Il y a bien un peu de marronasse pour un peu pimenter l'affaire. Enfin, c'est bien tout, quoi. Hein. Donc, parce qu'évidemment, dans notre culture, le noir et le blanc, c'est pas terrible, quoi. Vous voyez ? D'abord, c'est pas de la couleur. Ce sont des valeurs, pas des couleurs. Et en plus, dans notre culture occidentale, noir et blanc, ben, c'est assez connoté. Surtout que là, c'est plus noir que blanc. Alors, il y a d'autres artistes avec qui ont travaillé, vous savez, hein, autour du noir pour montrer que ce n'était peut-être pas ce qu'on pensait. Mais et en faisant des choses plus tardives et encore plus monochromes.
Et le blanc paraît des plumes d'oiseaux.
Oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. Oui.
Un oiseau qui est plumé.
Oui, 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 oui. Oui, oui. Une idée d'un artiste ou d'un pays où cette œuvre a pu être faite. Allemand, donc. Jasper Johns.
Un américain.
Un artiste américain. Un des artistes américains importants de ce courant-là. Alors on continue, je pense que le tableau suivant va peut-être vous faire penser à ce courant artiste.
JFK. On retrouve le personnage des deux personnages de tout à l'heure, je trouve.
Ah,
le style, oui, du
collage. Oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que on a là. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que on a là quelque chose qui, d'une certaine manière, même si c'est pas un collage, alors, parce que là c'est une peinture.
Oui, d'accord.
Et alors, tout à l'heure, le collage était petit, hein. Le truc d'Hamilton, ça fait ça. Hein. Là, c'est monumental. Là, ça tient un mur. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, c'est fait en trois parties parce que c'est une très grande, décidément. C'est un triptyque. Mais effectivement, il y a un peu la même idée. Il y a la super bagnole à droite, rutilante. Hein. Il y a le président qui sourit gypse à gauche.
Oui, voilà, oui, c'est un
peu ça. La denture remarquablement blanche et parfaite. Pardon ?
C'est quoi au milieu ? C'est au milieu, c'est les deux mains qui déchirent.
Voilà, au milieu, il y a effectivement, c'est assez curieux d'ailleurs. Deux mains qui déchirent. Alors, c'est bizarre, parce qu'on voit, ce que c'est que la main, hein.
Oui.
Une main féminine. On voit mal ce qui est déchiré. Ça ressemble à un gâteau, une sorte de pain d'épices avec une glaçure.
Des moellons.
Des moellons. Bah, en même temps, c'est petit. La main, elle est. Voilà, c'est très curieux.
Oui, c'est plutôt un gâteau.
Oui, moi ça me fait penser à quelque chose qui se mange.
Oui,
oui, oui. Un petit pain d'épices. Un petit pain d'épices glacé, je pense que ça.
On dirait plutôt une vieille éponge.
Ah oui, peut-être. Un espèce de Scotch Brite. Un Scotch Brite. Ouais, un Jex.
C'est
pour
le
licher.
C'est une
sorte
de.
C'est
pour nettoyer la voiture et les
dents. C'est pour nettoyer la
voiture
et les dents. Ça brille. Mais j'aurais dû regarder d'ailleurs, j'ai oublié de le faire.
Ça fait très publicité années 60.
Très publicité années 60.
Oui, absolument.
Ouais, ouais. Puis j'étais années 60 qui souvent sont faites d'ailleurs par des gens, des designers et autres qui sont voilà,
des artistes
dans leur genre. Des fois mm-hmm. D'ailleurs des artistes tout court. Donc là, ouais, qu'est-ce que ça. Donc vous disiez que ça vous rappelait le Hamilton de tout à l'heure. Quelque part, on communie dans le même. On nage dans la même eau. Hein. Ok.
Mais dans l'idée, hein, pas dans la réalisation.
Bien sûr, absolument, dans l'idée, dans ce que ça. Oui, dans l'idée. Oui, oui.
Ouais. Et les couleurs, ça fait penser plus à du pop art parce que c'est très coloré.
Tiens.
Ah, c'est ça que
vous cherchez. Eh ben, je crois.
Ah, ben, c'est des fallait que je vois cette couleur. C'est pas ce que je
crois que le courant artistique global autour duquel vous travaillez 8 heures, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le pop art.
Ah bon, vous pouvez dire
alors, ouais. Alors, vous savez, le pop art, comme son indique, est un courant que l'on. Comment dire? Que l'on accroche à la peinture américaine. Pop art. En France, on aurait dit l'art populaire, ou je ne sais pas quoi. On a préféré le mot pop art. Effectivement, parce qu'on vient de voir Jasper Johns, ça, c'est un artiste manifestement américain qui s'appelle comment ? Un autre pape du pop art. Alors, Warhol est un pape du pop art, mais ça, c'est pas toi. N'ayez crainte, on verra une de Warhol tout à l'heure, on ne peut pas ne pas en voir. Donc, ça, c'est un autre pop artiste. Et Ben, je ne sais plus ce que je disais.
Non,
je ne sais jamais ce que je dis. Oui, voilà, c'est ça. On parlait de... Parce que, donc, vous voyez, le pop art a été très marqué par ce qui s'est passé aux États-Unis, avec des gens comme Warhol, avec des gens comme Jasper Johns, avec des gens, je vais vous passer la diapo qui dit, là, comme Rosenquist, hein, qui est un autre grand pop artiste. Hein. Là, vous avez quelques-uns des piliers américains du pop art. Hein. Et donc, voilà, ce qui fait que on a donc vu dans le pop art quelque chose d'absolument américain. En fait, en étudiant ça, vous verrez dans un certain nombre de bouquins qui ont été consacrés au pop art, on voit en fait que c'est un grand plus compliqué qu'il n'y paraît, que ce n'est pas simplement quelques Américains qui, en gros, regardent la société de leur temps avec ce regard un peu ironique qu'on a déjà évoqué. Et on voit en fait que les racines sont vraiment plus profondes, plus compliquées aussi. Hein. D'ailleurs, tous ces courants artistiques, on leur donne des noms, mais c'est pour un peu classer ce qui est inclassable. Vous voyez ce que je veux dire ? Duchamp, on en parlait tout à l'heure, c'est autant un surréaliste qu'un pop artiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on peut, dans ce genre, on peut manger à plusieurs ateliers. Duchamp qui fait ce qu'on appelle des ready-made, c'est-à-dire, parce que Duchamp, en plus, était franco-américain. Hein. Il prenait des objets et il disait, ben, je décrète que c'est une œuvre d'art. Et personne ne pouvait aller contre, parce que vous-même pouvez faire la même chose. Hein. C'est pas interdit. On vous a plus l'entier. Vous voyez plein les musées des objets qui datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qu'on regarde comme ça, alors que c'était une potiche avec de l'eau dedans. C'est pareil. Le joueur fait la même chose. Sauf qu'il fait ça avec des objets de notre... Enfin, du 20e siècle.
Ce n'est pas une pif.
Pardon ?
Ce n'est pas une pif.
Ben voilà. Voilà. Alors, vous avez raison de citer Magritte, en l'occurrence, parce que... Alors, Magritte, lui, travaille dans un domaine qui, quelque part, joue, c'est un peu le papa, qui est le surréalisme. Un certain type de surréalisme. Donc, effectivement, c'est intéressant, mais... aujourd'hui, on a tendance, si vous voulez, même si on voit bien que le pop art est un courant dont le cœur, quelque part, est américain, on voit quand même qu'il se passe d'autres choses autour, si vous voulez, qui sont d'ailleurs pas forcément dépendantes de l'art américain, mais qui, en particulier en Europe, ont accompagné, quelquefois même précédé, parfois préparé, parfois suivi, le pop art américain. Et tout ça, c'est le pop art, vous voyez ce que je veux dire. Le pop art, c'est pas simplement Warhol, Rosenquist, et quelques autres, dont on va reparler, c'est plus compliqué que ça. Alors justement, continuons un peu à...
C'est un double tableau, ça, parce que c'est marqué président élu, on est en 60,
oui.
Et deux ans plus tard, on pourrait faire le même tableau,
oui.
C'est-à-dire le président tué,
oui.
Brisé, dans sa voiture...
Absolument. C'est ça qui est assez incroyable avec ce tableau. Il a une sorte... Oui, absolument. Ouais. Absolument. Mais effectivement, en mettant ce truc, j'avais la même réaction que vous. Mais c'est fou, hein. Un tableau comme ça donne l'iconographie de la fin du personnage qui est présenté. C'est fou. Jusqu'au scotch-brush pour nettoyer la voiture tachée. Enfin, je exagère, je ne sais pas si c'est... J'essaierai de vous dire la prochaine fois ce que c'est. Ah, ça fait beaucoup penser à Pollock. Sauf que, est-ce qu'on peut dire que Pollock, c'est du pop art ? C'est un Américain, Pollock. Hein. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que Pollock, vous savez, il fait ce qu'on appelle du draping. C'est-à-dire qu'il met une chose par terre. Voilà, mais l'action painting, hein, il jette de la peinture par terre sur la toile.
Bon, c'est cassé la figure de son échelle.
Qu'est-ce que vous voyez ?
En fait, il y a une peinture plus. Plus un truc.
Plus un truc.
Métallique peut-être.
Métallique, oui. Il y a un bidule métallique qui pendouille au bas de ça. Mais ça, c'est quoi ?
Ça, une plaque de bois. Complet.
Pardon ?
C'est du bois.
Alors, la base est assez vraisemblablement, elle fait une planche. Mais cette planche, après, on lui a fait subir des choses. Quoi ? Alors, il y a effectivement de la peinture, mais cette peinture. Elle est arrivée comment ?
Elle était prochaine.
Alors, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. Regardez bien.
Il a aussi
des... On dirait des personnages.
Un peu. Bizarrement, la peinture par le hasard de la, entre guillemets, projection.
Ah, elle dégouline.
Elle dégouline.
C'est
Nikki de Saint-Phalle. C'est Nikki de Saint-Phalle. Parce que l'œuvre que vous voyez là est une œuvre de femme.
Oui, Nikki de Saint-Phalle.
De Nikki de Saint-Phalle.
C'est du temps où elle tirait à coup de fusil.
C'est du temps où elle tirait à coup de fusil sur ses œuvres. Parce que Nikki de Saint-Phalle fait justement partie de ces personnes. Alors, on la connaît surtout pour ses grosses nanas, vous savez, hein, très joyeuses, très pop-art, très pop-art. Mais Nikki de Saint-Phalle, c'est tout autre chose aussi. Nikki de Saint-Phalle, alors je vais vous mettre là le truc, hein. Voilà. Nikki de Saint-Phalle, dans les années 60, va mettre en œuvre un truc assez curieux. Elle va préparer des œuvres à partir effectivement d'une sorte de planche de base sur laquelle elle va plus ou moins punaiser des poches de couleurs. Elle va enrober tout ça de plâtre, poser ça sur une sorte de chevalet, et avec un fusil, hein, même pas un petit pistolet, elle est dans un fusil. Paf, elle va tirer dessus. Et voilà ce que ça donne. Parce que, voilà, la carabine. En tirant avec sa carabine là-dessus, ça transperce le plat, ça transperce les poches de couleur qui sont en dessous, et ça crée aléatoirement ce que vous voyez là.
C'est éclatant.
Pardon ?
C'est éclatant.
C'est éclatant. Et. Il nous faut toujours. Voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose de. Une sorte de peinture aléatoire. Alors évidemment, on comprend. Qu'est-ce qu'il y a finalement derrière une œuvre comme celle-là faite par Nikki de Saint-Phalle ? La même qui fera un peu de temps après ses nanas, les gros seins tout colorés.
Une espèce de révolte ?
On dit que... Une sorte de révolte.
Oui.
Et pourquoi ?
Parce qu'elle a été abusée.
Elle a eu du mal.
Absolument.
Quand elle tire, elle.
Absolument.
Elle a du poids.
Absolument. Tout à fait.
Elle
règle ses comptes. Et puis on est dans les années 60. Dans les années 60, la femme parfaite, c'est évidemment celle qu'on a vue chez Hamilton tout à l'heure.
Oui, oui.
Voilà. Là, évidemment, et quand elle fait ça, c'est une femme, elle était absolument charmante, très gracieuse, etc.
Elle était mannequin.
Absolument, elle était mannequin. Elle était très belle. Hein. Et c'était vraiment une mannequin parfaite, très belle, tout était parfait. Hein. Et bien, cette fille-là, elle prend une carabine et paf, elle tire. C'est exactement l'inverse du stéréotype, si vous voulez, que l'on a. C'est-à-dire qu'elle casse l'idée de, je dirais, de l'éternel féminin, surtout celui qu'on a dans les années 60. Vous voyez qu'il y a une espèce de volonté de renverser la table, de retourner le stéréotype. Quoi. Le pop-art, c'est ça aussi. C'est quelque part de les prendre pour les inverser. D'autant du fait de son histoire personnelle, hein, que vous venez de rappeler, hein, et qui en rajoute une couche, en quelque sorte. Elle avait, elle, d'autant plus de raisons de le faire. Alors,
Guéridon,
un guéridon
emballé.
Enfin, c'est ce qu'il y a sur le guéridon qui est emballé.
Oui, oui,
qui est
emballé, oui.
C'est l'emballeur.
C'est
Christo.
Ah,
c'est Christo. Alors, Christo, vous le connaissez parce qu'il est emballé, vous l'avez sans doute vu, hein. Il a emballé récemment l'Arc de Triomphe. Il a emballé le Pont Neuf. Hein, donc, vous avez eu l'occasion 50 fois de voir des œuvres de Christo. Alors, tout comme il est capable d'emballer des choses énormes, hein, il a même emballé, du moins cerné des îles dans le Pacifique. Enfin, il a fait plein de choses.
Non, pas dans le Pacifique.
Ouais, dans le Pacifique, il a...
C'est en Floride.
En Floride. Il est vraiment capable d'emballer ou de cerner des tas de choses, hein, et, mais aussi des petites choses. Donc là, c'est un cristal d'intérieur, si j'ose dire. Il emballe simplement quelques objets sur un guéridon. Alors, l'idée, c'est quoi ? Alors, c'est une sculpture, mais qui est en partie peinte. C'est-à-dire que l'emballage est lui-même plus ou moins couvert d'une espèce de coup de peinture.
Oui, c'est éphémère.
Pardon ?
C'est éphémère.
Alors, non, parce que c'est fait pour rester comme ça.
Non, mais
oui,
pas ça,
mais monuments. Ah, oui, quand, oui, vous avez raison. Quand il emballe l'Arc de Triomphe, effectivement, c'est éphémère. Il faut quand même pouvoir aller dessous.
Ouais. C'est un peu comme le fer à repasser de
du champ, c'est-à-dire qu'on prend un objet quel qu'il soit, on le détourne et on en fait un nouvel objet.
Oui. Évidemment, on voilà un objet qui évidemment ne peut plus servir de guérison, parce qu'il est difficile de poser quelque chose dessus. Hein, voilà. Donc effectivement, cet objet assez banal, même s'il se pousse un peu du col, hein, il a un petit côté Louis XVI, Louis XVI, ce guéridon. Hein. Mais vous voyez que là, il devient un peu dérisoire. Quoi. En tout cas, il ne sert plus à rien, on ne peut plus rien poser dessus. Il y a donc des objets qui ont été emballés. Voilà. Donc, effectivement, on le détourne et de manière un peu rigolote et dérisoire de ce qu'il est, absolument. Mais il y a peut-être autre chose aussi.
Sur les formes,
oui.
Sur le mystère.
C'est ça, absolument. Parce que qu'est-ce qu'il y a dessous, finalement ? C'est un peu agaçant, c'est pas. On devine qu'il y a peut-être une bouteille, ça. Mais effectivement, il y a une dimension de mystère, de question, qui nous incite à nous demander ce qui se passe derrière, finalement. Hein. Le voile dissimule, qu'est-ce qui se passe sous le voile ? On a toujours envie de savoir. Puis c'est aussi un peu une manière d'interroger des choses évidentes que finalement on finit par ne plus regarder. Moi, ça m'avait frappé au moment du Pont Neuf, par exemple. Le Pont Neuf, on connaît tous, on l'a vu 50 fois, on avait passé à droite, à gauche, devant, dessous, de nos frères. Et finalement, quand il est emballé, on se dit, ah, bah, tiens, en fait... finalement, on s'intéresse. Pour l'Arc de Triomphe, c'était le même genre de choses. C'est-à-dire, ces gens qu'on connaît par cœur, et tellement par cœur, finalement, on ne les regarde pas. On les voit, on ne les regarde pas. Donc, ce que Christo nous dit là aussi, c'est il nous invite à regarder, pas simplement à voir. Voir, on voit tous. Regarder, c'est autre chose. C'est vraiment interroger l'œil qui voit. Et notre société de communication actuelle, tellement merveilleuse, vous savez, joue absolument sur le voir et pas sur le regarder. On voit des tonnes de trucs.
Oui. On voit des tonnes de trucs. Ça passe très vite.
Voilà.
Donc c'est une unification de la couleur, parce que tout est de la même.
Oui. Une espèce de grisouille, complet. Oui. 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 Ouais. Ouais.
Et dans la pratique, c'est fait comment ?
Pardon ?
Enfin, c'est quelque chose en dessous, c'est
quoi ?
C'est du plat ?
Non, c'est des vrais objets. Sous l'emballage. Oui, c'est des vrais objets. Des vrais objets, vraiment. Vous savez que, par parenthèse, alors c'était pour un autre artiste emballeur qui n'est pas Christo. Enfin, non, reste, qui a fait aussi des emballages tout à fait différents. On raconte une histoire, mais qui je crois est vraie, hein, qui est qu'un jour dans un musée, il y avait une œuvre comme ça emballée qui est arrivée, qui a donc été déballée. Et donc on a déballé l'œuvre emballée. Et une personne qui croyait bien faire a enlevé l'emballage. Donc voilà, pensant que ça avait été emballé pour. Or non. Mais ce qui est en même temps intéressant, qui montre bien la. Vous voyez là. Eh oui.
C'est une composition de chœur.
Ouais.
Vivre grenier.
Oui.
C'est ça.
Absolument. C'est ça. Alors, ça s'appelle marché aux puces. Hein. C'est pas loin de vivre grenier. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a fait l'artiste là ?
Il a
pris des guéris. Ça fait un peu penser à la route,
c'est vrai. Il a organisé des guéris.
C'est-à-dire que là, l'artiste, il est allé dans un marché aux puces. En fait, il a acheté ce qu'un Gus vendait, y compris la couverture du gars c'était. Et puis là, il l'a pris et il l'a fixé au mur. En fait, vous avez verticalement ce qui doit être à l'horizontale.
C'est Spoerry. Voilà.
C'est Daniel Spoerry, absolument.
Et le tissu, on dirait un drapeau.
Un peu. C'est vrai. Oui. Voilà. Par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup des gens que je vous montre, hein, qui ont travaillé en France, hein, sont originaires d'au-delà de nos frontières. Intéressant à noter, hein, c'est-à-dire que la France est un lieu où il y a eu, dans ces années-là, beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur. L'histoire de l'époque laisse comprendre pourquoi. Hein. et qui ont beaucoup travaillé en France. La France a été, peut-être est encore toujours aujourd'hui d'ailleurs, un des pays du monde où il y a énormément d'artistes. Hein. Aussi parce qu'il y a beaucoup de galeries, il y a une effervescence culturelle et créatrice très très grande, hein, qui incite beaucoup de gens de l'extérieur à venir parce que on peut faire des choses, expérimenter, etc. Alors, au-delà des Picasso et autres Max Ernst dont on a déjà parlé, hein, de générations précédentes, c'est la même chose pour ces générations-là.
Il y a beaucoup de piquants dans ce tableau.
Oui, oui, oui. Ben en fait, il a pris ce qui restait. Il y a une espèce de vieille rapière, il y a une espèce d'objet qui représente un lézard avec une queue un peu piquante. Il y a des bouts de trucs.
Voilà. Il a beaucoup fait des tables avec les repas.
Absolument. Ouais. Ouais, il a fait des tables avec les repas. Le repas s'arrêtait à un moment, il mettait la table verticale après avoir collé.
Après avoir collé.
Mais sans laver les assiettes. Alors, donc effectivement, c'est une manière d'épingler notre société. Parce que là, on évite le grenier, on vit dans le grenier. Donc, autant le montrer, quoi.
Ah, ça, c'est les affiches déchirées, non ?
Exact.
C'est les naféas qui ont souffert.
Oh, ça, c'est marrant. Vous savez que c'est marrant ce que vous dites.
Est-ce que ça s'appelle naféa? Je vais
arrêter de faire des ateliers. Vous savez tout. Vous savez déjà tout. Ça s'appelle une naféa.
Ah oui.
Voilà. C'est marrant ce que vous avez absolument tapé dans le mille. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez là, mais finalement, pourquoi ça s'appelle les nymphéas ?
Parce qu'il y a
des taches de couleur. Et évidemment, c'est une référence à qui ?
À
Monet. Je tiens à dire que l'œuvre de Schmoëri précédente est un hommage à Giacometti. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur le
livre
précédent, il y a deux mannequins.
Oui.
Il y a des trucs filiformes, etc. Une évocation de Giacometti. Hein. Tous ces artistes, non seulement se connaissent, mais interagissent. Donc c'est pas du tout des ahuriques qui savent rien, qui font n'importe quoi, pas du tout. Hein. Ça c'est la vision qu'on a, qui on ne connaît rien, mais non, c'est des gens qui connaissent, qui savent, qui interagissent, qui bouquinent, qui sont des gens cultivés, tout ça. Et voilà, effectivement là, Raymond Hens, qui est un pop artiste français tout à fait passionnant, alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il a fait ça sur une plaque de zinc, et voilà, il y a donc quelques éléments d'affiche qui restent, effectivement, finalement c'est la même chose que Monet, sauf que Monet il a ajouté de la couleur, hein. Lui, il aurait pu enlever une certaine manière, et de manière aléatoire, parce que ce qui s'est passé vraisemblablement, c'est qu'il a pris, il a découpé une plaque de zinc qui existait avec des bouts d'affiche qui restaient dessus, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il a choisi dans une rue un morceau d'un truc qu'il a découpé pour en faire œuvre. Et lui, on s'appelle les affaires. Bravo.
Il y a un fût.
Ouais. Mais encore.
Oui, il est fini. Il y a un contraste entre le bidon et la fleur.
Ouais. Alors oui, une fleur. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment tout à fait une fleur ? Ça ressemble.
Le plus gros, c'est un plumeau.
Oui, c'est ça, cette espèce de. Voilà, cette espèce de plumeau un peu usagé. Il n'est pas très en forme, ce plumeau-là. Mais ça ressemble un peu à une fleur, effectivement. Et puis vous voyez quand même que. Voilà, c'est branché. Ça veut dire quoi ?
C'est allumé.
Voilà. Alors, quand ça s'allume, qu'est-ce qui se passe ?
Ça bouge.
Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe ?
Ça
Voilà, ça vibre, ça. En fait, moi je l'ai vu bouger ce truc-là. Pardon. Ça fait du bruit. Mais alors un bruit œillet un peu ridicule, un bruit comme ça. Et ça bouge de manière un peu à la fois effrénée, mais un peu dérisoire. Parce qu'il y a une espèce de plumeau qui fait comme ça, le reste fait comme ça. Enfin, c'est... En gros, ça bouge, mais ça ne sert à rien. Donc c'est une machine absolument inutile. Une espèce de machine idiote qui bouge comme ça en faisant un bruit ridicule. Bref, on n'y croit pas. C'est bébête. Mais c'est une machine. Qui est-ce qui fait ça? À mon avis, vous connaissez. Quelqu'un qui est très proche de quelqu'un qu'on vient de voir.
Oui, le mari de Nikita.
C'est ça. Exactement. C'est Jean Tinguely. Alors, on dit Tinguely ou Tinguely, et les Suisses, hein, il y a les deux. C'est Jean Tinguely. Alors, vous savez qu'à côté de Beaubourg, il y a la grande fontaine, hein, qui est faite par, qui a été faite par Nikita Saint-Phal et Tinguely. Et justement, vous avez une espèce de machine un peu idiote. Vous avez une espèce de grosse passoire qui pousse, qui a un drôle qui va, qui ressort, il y a de l'eau qui sort, il a l'impression un peu pété, hein, ça ne ressort pas bien. Enfin, Tinguely, c'est ça, une espèce de machine dérisoire. Là, on retombe sur notre Duchamp tout à l'heure, ce que vous disiez. Hein. C'est-à-dire que c'est une sorte d'interrogation sur le modernisme, vous savez, on va vers le progrès avec la machine, forcément. Hein. Et donc, voilà, c'est une espèce de manière dont c'est une machine dérisoire, quoi, qui essaie bien de faire quelque chose, mais en fait, qui n'y arrive pas trop. Quoi. Elles aimeraient bien, mais elles peuvent point. Quoi. C'est un peu... C'est poussif, quoi. D'ailleurs, c'est tellement possible que maintenant, le moteur étant tellement fragile, l'œuvre, on ne peut plus la faire fonctionner. Enfin, alors, il y a une vidéo qui montre ce qui se passe quand elle. Mais l'œuvre elle-même ne peut plus tenir. Moi, si elle est mise en route, ça ne marche pas. Ou ça risque de péter complètement le moteur.
Une garagiste de Luxi a un truc comme ça.
Ah, intéressant, ben, j'espère. Fais une petite proposition financière.
Ah, c'est ça.
Le prix que vous voulez. Vous voulez votre truc du garagiste?
Non, ici.
Ah, ça. Alors là, pas le prix que vous voulez. Mais votre garagiste peut toujours dire qu'il est artiste. Hein. Ça ne gêne absolument pas. On est dans un pays de liberté. Bah, il peut très bien dire je suis artiste, je fais ça. Où est le problème? On est dans un pays de liberté que diable. On n'est pas en Russie ou en Chine. Hein. On a encore le droit de dire je veux être artiste et je le suis. Malheureusement, on n'a pas fait la révolution pour rien quand même. Donc votre garagiste, dites-lui bien que si il a désormais un artiste, qu'il s'exécute. Voilà. Hein. Ça vaudrait la peine. Hein. Tant qu'il ne le décrète pas, bah, par contre, voilà. On ne peut pas le faire pour lui. Hein. Pardon ? Ah ben ça, c'est toute une démarche. Ah oui, ça, c'est aussi vieux que l'histoire du monde. Alors.
Ah, ça c'est l'école de Nice.
Exact, c'est ce qu'on appelle l'école de Nice. Voilà encore une espèce de sous-groupe du pop-art. Parce qu'encore une fois, on a mais un peu confortable, et aussi pour des raisons à la fois géopolitico-financières, vouloir de le pop-art un art américain. C'est les Américains qui ont inventé le pop-art. C'est un peu plus compliqué. Et encore une fois, on a, vous le voyez, en Europe, c'est pas, je dis pas ça pour sortir un drapeau européen, hein, encore que, mais vous voyez, c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe, c'est plus riche que ça. Et donc, on a en Europe des pop artistes absolument passionnants. Là, qu'est-ce que vous voyez, par exemple? C'est toujours la même chose.
Sur la plage.
Voilà, une pin-up sur la plage.
C'est un assemblage. Il y a un assemblage de toiles et un décor horizontal.
Effectivement. Tiens, vous avez là, derrière, une sorte d'élément fait à partir de photographies, repeintes, agrandies, tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, vous avez un plan, effectivement, vertical et plat, quoi. Mais devant, vous avez une vraie serviette, un vrai chapeau. Donc, donc c'est une espèce de plage woman, si vous voulez. Hein. Et on ne sait plus où commencent les vrais objets au fil de la présentation. Alors ça, il est au NAM, je crois.
Oui, il est au musée à Nice.
Je crois que c'est au Musée national d'art moderne. Il est peut-être en déploiement.
Ah,
on l'a peut-être vu aussi en, soit en déploiement, soit oui. exposé. Ouais. Ouais. Donc c'est une œuvre de Marcel Reiss, qui est un site absolument passionnant, qui existe toujours, qui est un reste vraiment très, très, très intéressant. Il y a, je crois qu'il y a une exposition au Musée National d'Art récemment sur lui, et qui est un très, très intéressant pour l'artiste. Hein.
Ah.
Warhol, le pape du pop art. Ah, on arrive en terre connue. Voilà, voilà. Ça s'appelle Ten Lees, parce qu'effectivement, il y a 10 Lees Taylor. Alors, quelle est l'idée de Warhol dans une œuvre telle que celle-ci ?
Le changement dans la répétition.
Voilà, effectivement. Parce qu'on sait que c'est toujours la même lise, mais elle est répétée par un procédé. Par quel procédé, à votre avis ?
C'est la sérigraphie.
Donc la sérigraphie, c'est un type de reproduction voilà, qui se fait à partir de cadres, enfin de soie qui est tendue sur des cadres. Et dans les sérigraphies, on peut ne pas toujours avoir exactement le même rendu, si vous voulez. Hein. Donc c'est la même chose et c'est jamais la même chose. Et alors je vous ai choisi ça notamment parce que là, c'est du noir et blanc. Souvent, Warhol, il y a beaucoup de couleurs. Ça, vous connaissez la Marilyn de Warhol, ça, qui était aussi une des icônes du XXe siècle. Hein. Mais voilà, c'est aussi important de voir que Warhol, ça peut être un peu moins séduisant, ça peut être un peu noir et blanc comme ça. Et l'idée étant, effectivement, la répétition d'une icône du cinéma du XXe siècle. Lise Taylor, bien sûr, c'est quand même Cléopâtre. C'est le superlatif du cinéma hollywoodien. On ne fait pas mieux. Et là, évidemment, il la répète, il la. Hein, c'est l'icône pop par excellence. Alors, on fait bien de faire de Warhol un des personnages principaux du pop art, parce qu'il l'est, effectivement. Simplement, cette icône américaine n'est pas la seule, encore une fois, c'est important de le montrer. Là, qu'est-ce qu'on voit ?
Un guichet
de quoi ?
De cinéma.
Un guichet de cinoche. Ouais.
Ouais.
Sauf que c'est vraiment un guichet de cinéma ?
Non.
Ah non. En fait, c'est quoi ?
C'est une sculpture.
Oui, c'est une sculpture. C'est une sculpture. Voilà. Où on voit, évidemment, l'entrée d'un cinéma. Hein. Vous avez, il y a même les ampoules hein, sur la partie sur. Et puis, dans la guitoune, qu'est-ce qu'il y a ?
Un personnage.
Mais qui est quoi en fait ?
La vendeuse.
Voilà, qui est la vendeuse, mais.
Qu'est-ce vrai ?
Un mannequin. Alors, en fait, c'est le moulage de quelqu'un hein, qui est effectivement dans la guitoune et qui est là pour nous. Sauf que c'est un drôle de personnage, que tout le reste est très réaliste, jusqu'aux ampoules. Alors que la figure, le seul être humain, ne l'est pas. Enfin, c'est un. Évidemment,
c'est
un fantôme. C'est une espèce de spectre blanc hein, qui, vraiment, est l'élément le moins réaliste de la totalité de la scène.
On dirait un soldat chinois.
Oui,
de
l'armée.
Vous pensez à ça, oui. Oui, de fait, c'est en plâtre, donc, vous voyez. Hein. Vous connaissez l'artiste ?
Non.
Alors, c'est un autre pop artiste américain qui s'appelle George Segal. Donc, vous avez certainement vu des personnages en plâtre de lui. Hein. Si on ne dit rien, eh bien, désormais, vous connaissez. Tiens. Oui. Alors, c'est quoi ça ?
Une nature.
Au 17e, on montrait un lapin puis un chou-fleur. Au 21e siècle, on monte une radio et une pomme.
Sur un carrelage.
Sur un carrelage.
Sur une étagère.
Dans une cuisine, sans doute.
Oui, ça ressemble. Société de consommation de l'époque.
Voilà. Voilà. Effectivement, on a quelque chose qui évoque une société de consommation. Réduite à des espèces, vous voyez, de pictogrammes. La pomme, c'est un peu. Vous savez, c'est les émojis qu'on a sur nos ordi aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
C'est un écran.
C'est symbolique.
Ah, les couleurs, c'est ça ?
Oui, jaune et bleu.
Voilà, alors ça, c'est un autre pop artiste américain, un des plus importants, qui s'appelle Tom Wesselman. Oui, parce que ça c'est clair. Pour donner un côté presque enseigne de magasin, vous voyez. Alors, encore quelques éléments. Ça, avec Andy Warhol, Tom Wesselman, Robert Rosenquist, vous avez là un des grands noms du pop-artisme américain. Vous avez une idée de qui c'est ?
Roy
Lichtenstein. Et c'est qu'est-ce qu'il fait, Lichtenstein ?
Il utilise des trams.
Oui, alors il utilise effectivement des trams.
Et il agrandit des bandes dessinées.
C'est ça. Il travaille sur ce qu'on appelle des comics, c'est-à-dire les bandes dessinées américaines. Et finalement, il fait un peu le même genre de travail que Minton tout à l'heure, c'est-à-dire. Finalement, là, on voit quoi ?
La société américaine.
Alors, oui, la société américaine, à travers quelle image ? Voilà, une sorte d'idéal féminin, et la jeune fille, là, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle pleure.
Donc, on a une jeune fille qui pleure, c'est typique de ces trucs qu'on a dans les romans photos, dessinés, si j'ose dire, les comics américains, bon. Donc, c'est l'ordre du stéréotype, quoi. La jeune fille, forcément blonde, forcément avec des yeux comme ça, avec des lèvres bien rouges, un super stéréotype. Hein. Et évidemment, elle pleure, parce qu'elle ne peut pas pleurer, autrement, ce ne serait pas romantique. Ça m'a une peinture, si elle ne pleurait pas. Donc, c'est le type de truc que vous voyez sur toutes les pages des comics américains. Quoi. C'est un stéréotype, c'est un super stéréotype. Donc, en fait, effectivement, Lichtenstein, il pique comme ça des éléments qui le agrandit. C'est dans des comics à trois balles. Hein. Personne ne regarde ça, tout le monde fiche en l'air. Lui, il les choisit et il les agrandit. Effectivement, il fait une trame. Comme, vous savez, quand on agrandit un dessin.
La photo, elle
est... Et qu'il s'est lisé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça, le travail de Roy Lichtenstein, qui est...
Alors, les points, il les fait à la main.
Voilà, oui, absolument.
Ah ouais,
ouais.
J'ai vu un reportage.
Ouais, oui. Lui, c'est...
Mais le dessin, c'est pas du
lui, au départ. Ah non,
bien sûr.
Non, non. Ouais. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Ça, tous les artistes ont toujours copié des tas de choses. Hein. Ça, c'est. Voilà, c'est... Mais évidemment, le dessin n'est pas lui au départ. C'est, d'ailleurs, il est, lui, par contre, il le recadre, il le remet droit ou pas droit, enfin, dans un autre sens. Tout est possible. Hein.
Porcelaine émaillée,
c'est une porcelaine. Porcelaine émaillée, oui. Il a fait aussi des peintures.
Hein.
Mais ça y est, il a bien fallu peindre. Hein. Mmh. Ça ne se fait pas comme ça. Eh oui, exact. C'est la reprise des Genies sur l'herbe. De qui ?
De
Manet. Donc, c'est intéressant, là, c'est un artiste qui recite un autre. Hein. Bon, tous les artistes ont toujours fait ça depuis l'Antiquité. Hein. Mais là, on a un bel exemple. Ah oui, ah bah non, bien sûr. Mais pour les jeunes loups romantiques des années 1850, c'était dans un sous-bois auprès d'une mare. Pour les jeunes filles des années 60, c'est au bord d'une piscine avec des sodas. Voilà. Mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Simplement, c'est une transposition. C'est le déjeuner sur l'herbe moderne. Voilà. Alors, c'est une technique assez compliquée, d'ailleurs c'est peut-être marqué, parce que je crois que c'est, là aussi, il me semble que c'est une sérigraphie. On va en même temps voir le nom du personnage. Oui, voilà, il y a à la fois de la peinture et de la sérigraphie. Alors, c'est un artiste français, connu partout, son fond France, évidemment, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on connaisse son artiste chez nous. Même dommage. Hein. Surtout, ignorons-les. Hein. On se voit pas beaucoup mieux que ça. Donc, il s'appelle Alain Jacquet, c'est un artiste absolument passionnant. Et donc qui effectivement là reprend l'idée du déjeuner sur l'herbe hein. Et donc se réapproprie l'œuvre tout en faisant une sorte de déjeuner sur l'herbe moderne. Oui, une technique vivement assez compliquée. Hein, oui, oui. Elle toujours c'est de la trame, hein, des pixels. Enfin, voilà. on a encore, je crois, 4 ou 5 œuvres à voir.
Une installation.
Une installation. C'est un peu comme notre Duchamp de tout à l'heure. Oui. Sauf que là, il n'y a pas un fer à repasser. Il y a carrément tout un bazar.
Oui. C'est le musée des arts et métiers.
Un peu. Bah, d'ailleurs, c'est une bonne comparaison, le musée des arts et métiers, c'est ça.
Oui.
Finalement. Sauf que là, c'est un peu comme King Gully. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est des machines auxquelles on ne croit pas trop. Ça veut dire, c'est des bouts de trucs recomposés par lui qui ne correspondent pas à une réalité technologique, si vous voulez.
C'est pas possible.
Ben, de toute façon, quand on va au musée des arts et métiers, moi, il y a des machines, je me demande comment ça marche. Hein. Je ne sais pas vous, mais
elles marchent.
Ben, elles ont marché, ou elles marchent encore. Mais
bon,
n'est pas, voilà, si on n'est pas briefé, on n'est pas obligé de savoir comment ça marche. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Alors là, c'est un Français, un Américain, un Japonais, un quoi ? Un Américain, c'est Robert Rauschenberg. Là aussi, hein, un des grands piliers de la...
Est-ce que ça te prédit quelque chose?
Voilà. Je me suis posé la question.
Ça marchera.
C'est, voilà, c'est quelque chose qui peut se comprendre comme étant une espèce de volonté de confiance en la technique. On le voit parfaitement aujourd'hui encore. C'était déjà vrai dans les années 60. Hein. On n'a pas vieilli, hein, 50 ans après. Aujourd'hui, on met tout sur nos ordi, on apprend aujourd'hui tant 30 millions de Français ont été piratés. Parce que, évidemment, on fonce tous tête baissée là-dedans en se disant c'est parfait, ça ira bien, on est une start-up nation, donc tout va bien. Total, on se fait pirater nos données. Donc, la foi en la science, elle est très utile, hein. C'est très très important. Hein. Mais voilà, la dimension critique est importante aussi, c'est ce que nous dit Oracle. C'est-à-dire que la machine, ça, tout ça, c'est très important. Le côté, ouais, c'était mieux avant, ça va. Hein. Mais en même temps, attention! La mesure, la tempérance, comme auraient dit les gens du Moyen-Âge, hein, c'est important. C'est finalement ce que nous dit une œuvre comme celle-là.
Alors concrètement, c'est comment ?
C'est grandeur nature. Si vous avez, vous voyez avec la portière de nature, hein, c'est une portière de voiture avec derrière une sorte de moteur. En fait, c'est une espèce de machine qui n'en sont pas. Alors, c'est posé. Vous n'avez jamais vu ça, le musée national d'art moderne ? C'est présenté en permanence, ça. C'est une des rares œuvres de Rauschenberg qui se trouve en France. Hein. Et c'est donc, voilà, c'est donc des éléments qui sont posés comme ça. Voilà. Une espèce de bout de machine dérisoire. Vous voyez, là, une espèce de tuyau à roulettes. C'est, voilà. Oui, là, on revient de la peinture sur toile. Ah, on sent une respiration. Oui, ça devient presque étonnant.
Les gants de cuir, les boutons de manchette.
Pardon ?
Ça fait penser à Magritte.
Oui. Ça fait un peu penser à ça, oui. Oui, oui. En fait, qu'est-ce qu'il fait, là, l'artiste ?
Il prend un détail.
Voilà. Il s'intéresse vraiment à un détail. Oui. Parce que normalement, on présente le gars qui va avec. Quoi. Non, non, non. Il n'y a que son bras qui tient un gant. Donc voilà, il met en avant un détail. Il avait, par exemple, des trucs assez marrants, des visions de pneus. Il y a un pneu, quoi. Mm. Et lui a fait des tableaux qui représentent un ensemble de pneus. Vous savez, on voit des zigzags. Mm. Hein. Voilà. Alors, des choses qu'on voit, plutôt qu'on voit, qui passent sous nos yeux, mais qu'on ne regarde pas, encore une fois. Mm. Donc, Stormfly, c'est le nom de cet artiste, c'est quelqu'un qui...
Il fait la manche.
C'est ça. Qui nous propose de regarder ce qu'on fait que voir. Voilà.
Il est toujours vivant.
Oui, oui, il y a un très beau enfant. Alors, un musée tout proche d'ici, où vous verrez beaucoup d'œuvres de ces artistes de pop art, notamment français, c'est le musée de Dole. Musée des Beaux-Arts de Dole. Très belle collection, une des rares en France, avec le Centre National d'Art moderne, le musée de Saint-Étienne, etc. Il y a une très belle collection d'artistes de genre.
C'est où Desville ?
Pardon ?
C'est où Desville ?
J'ai vu ça. C'est pas en Bulgarie ou quelque chose comme ça. En Géorgie, un territoire de l'Est de l'Europe.
C'est un collage.
Ou un décollage.
C'est, voilà, c'est plutôt effectivement un décollage d'affiches. Hein. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est un autre artiste. Hein. Mais c'est des affiches lacérées et choisies. Hein. C'est un peu la même chose que l'on a fait tout à l'heure.
Il y en a plusieurs. Hein.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un artiste, vous le connaissez, non? Qui s'appelle Jacques Maé de la Villeglée, hein, qu'on appelle généralement Jacques Villeglée, et qui est un affichiste, quelqu'un qui a, comme ça, collectionné dans les villes des morceaux d'affiches en, en gardant ce qui l'intéressait. Alors généralement, le titre, c'est le nom de la rue où vous la trouvez. Alors ça aussi, c'est une icône de notre artiste. Hein. Allez, une ou deux dernières. C'est effectivement une coulure. On appelle ça une expansion. Ça se répand. Alors, vous connaissez l'auteur?
Oui.
Oh oui.
C'est bien possible.
Ça commence par C, justement.
César.
César. César, c'est César, hein. Il y a un œuvre de lui un peu partout, vous le connaissez, voilà une œuvre très typique de César. C'est qu'il a fait des expansions comme ça, mais également des compressions. Le César qui est donné à celui des Césars, c'est le César, c'est une compression César. Donc César, vous le connaissez tous, parce que, pardon, c'est une compression. C'est une compression. Je crois qu'on en a encore deux. Alors ça fait, c'est vraiment quelqu'un qui a dit Baltus, c'est vrai que ça fait penser à ça. Les Baltus seraient beaucoup plus abstraits que ça. Hein. Dans Baltus, il y aurait un sort de sous-texte poético, érotico, philosophico, quelque chose.
C'est la vie idéale.
Là, voilà, on retombe sur Hamilton. D'ailleurs, d'ailleurs quoi?
C'est lui?
C'est pas lui. Mais c'est un de ses contemporains, enfin, de ses compatriotes que vous connaissez. Ouais. Il y a d'ailleurs une énorme exposition sur lui à Beaubourg. Et puisque vous êtes abonné à toutes les revues possibles d'histoire de l'art, vous le connaissez.
C'est un satire.
David Hockney.
Ah voilà.
Ok. Et puis on se regarde un petit dernier.
C'est dur.
C'est dur ou c'est mou? C'est complètement mou. Ah oui. C'est fait en quoi? En tissu, en toile.
En tissu, c'est ouais. Des sacs.
Des sacs, ouais.
Est-ce que c'est vraiment des sacs?
Ah ben il y en a un diable.
Regardez ça, regardez ça, ou ça.
Oui, mais derrière, il y a ça.
Bah, ça ressemble aujourd'hui à des sacs.
Ça ressemble à un lion.
Un lion.
C'est un emballage.
En fait, c'est une batterie. C'est ce qu'une batterie, hein. Et ça, donc, les oies. Mais là, Klaus Sonderbourg, qui est un autre grand pilier du pop art américain, a fait une batterie, mais en tissu, une batterie molle.
Donc c'est fait pas beaucoup de bruit.
Voilà, qui fait pas de bruit. Vous pouvez taper dessus, ça fait pchit. Et vous avez une batterie, alors c'est dur que ça. Là, ça s'écrase comme des coussins. Quoi.
La batterie est en danger.
Pardon ?
La batterie est en danger.
C'est une batterie fantôme. Toujours, voyez cette manière de prendre des objets qu'on connaît et de les détourner. En fait, de Duchamp jusqu'à ça, on est sur la même idée. C'est-à-dire qu'on est sur une sorte d'analyse, parfois dérisoire, quelquefois très critique, quelquefois très amusée, que sais-je encore, des objets du quotidien. Ça nous, le but, si vous voulez, est de nous faire nous interroger sur la société qui est la nôtre. Et, enfin, qui était, parce que la pièce la plus récente, vous voyez, date de 72, c'est celle-là. C'est donc déjà très vieux. Et donc, en regardant ça, de prendre les objets de notre quotidien, et tu veux dire, ben tiens, ils ont peut-être quelque chose à nous dire. Voilà. En fait, c'est de s'interroger, de se questionner en permanence sur les choses que l'on voit. C'est finalement assez simple. Et le pop art, c'est ça. C'est ça. Alors, je voulais commencer par ça aujourd'hui, parce que c'est un courant très typique quand même de ces années-là, hein, des années 20-70. C'est un courant qui, encore une fois, est un peu toujours vu par les mêmes trucs. On voit Marilyn, Andy Warhol, et puis les stars. Hein. Or, c'est plus compliqué que ça. Ça n'est pas qu'américain. C'est un peu encore toujours avec un petit sourire de côté. Ah, c'est rigolo, Marilyn, avec les cheveux oranges. Oui, c'est rigolo, mais ça dit des choses aussi. Hein. Et voilà, c'est donc... alors, c'est aussi quelque chose d'assez avant-gardiste, même encore aujourd'hui. Alors que cette pièce qui est la plus récente, hein, il y a encore des gens qui pourraient être choqués par ça. Alors que c'est vieux tout ça. C'est vieux. C'est très vieux. Eh bien, on est encore choqué par ça. C'est fou. On peut dire qu'on peut être choqué par Shimabu et Giotto. Hein. Donc on peut être choqué par quelque chose de plus récent. Mais c'est intéressant de voir qu'on est là dans une œuvre complètement classique. Hein. Maintenant, tous les grands musées du monde ont ça. Hein. C'est complètement... C'est réglé. Mais des œuvres qui ont encore un pouvoir qui est celui de l'art, de nous interroger. Il y a un pouvoir... pour nous titiller, un pouvoir subversif, pour nous faire réagir. L'art, c'est ça. C'est pas un joli bouquet de fleurs dans un vase pour faire dire « Ah, c'est joli !» C'est quelque chose qui doit nous boucher, nous faire réagir. L'art, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas une sorte de consensus mou qui fait que tout le monde adore. C'est quelque chose qui a pour but de nous piquer les fesses. Et bien, le pop art, c'est ça. Vous savez, je voulais commencer par ça. Parce que, pardon.
On ne peut pas le mettre chez soi.
Ah, ben moi, alors là, je mettrai tout ça chez moi. Hein. Ah. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Ah ben moi, vous me donnez ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, à titre personnel, je pourrais vous montrer des œuvres que je possède, des personnels, qui sont proches de ça, hein, que je possède, que j'ai achetées quand j'étais jeune, ou moins jeune d'ailleurs. Non, moi, tout ça, moi, j'ai aucun problème, je mets ça chez moi. Hein. Attendez, un Raymond I dans ma chambre, j'adorerais ça. Ah oui, j'adorerais ça. Pourquoi ne pas adorer ça? Le problème, il est où?
Attendez, il faut s'y faire. Hein.
Ah ben, il faut se faire à l'art.
Oui.
Mais de toute façon, on ne le montre pas. Non, on ne s'y fait pas ce qu'on ne montre pas. Il faut s'y faire, vous avez raison. C'est aussi un problème de...
Il faut apprivoiser.
Absolument. Voilà. Exactement. C'est le bon mot, je crois.
Quand vous dites que les gens sont choqués, c'est parce que si... Enfin, je veux dire, on n'a pas l'habitude de se faire l'art. Bon, voilà, c'est l'art académique, etc.
Mais exactement.
Il y a aussi le fait aussi qu'il faut être préparé à voir, à rencontrer certaines œuvres.
Absolument.
Parce que sur certaines œuvres, on ne voit rien. On peut aller voir des
absolument. Actions, absolument.
Exactement.
Exactement. Mais je crois que le bon mot, c'est évidemment l'apprivoisement. Je ne connais pas, comment voulez-vous. C'est normal qu'on ait une réaction. C'est fait pour aussi. Et donc, évidemment, il faut apprivoiser, s'y faire. Mais vous savez, vous le savez tous d'ailleurs, hein, tous et toutes, hein, quand les impressionnistes ont montré leurs premières œuvres, tout le monde leur est tombé dessus à bras. On a dit pique-pan de ce impressionniste. Ils étaient nus, ils n'avaient pas la peinture, ils n'avaient pas peint, ils n'avaient rien. Qu'est-ce qu'on allait faire de ça ou de, dans ces maisons? Aujourd'hui, c'est ce qui vaut le plus cher au monde.
Oui, mais un petit tableau ou un tableau, ça tient moins de place qu'un objet comme ça.
Ah, oui, là, évidemment, il faut avoir une grosse. Mais tu sais, t'as des petits Oldenburg aussi. Hein. Moi, par exemple, j'ai vu l'exposition d'Oldenburg il y a très longtemps au Musée national d'art moderne, où il y avait des petits dessins. Alors, en plus, je trouve ça une drôlerie terrible, qui représentait une pomme de terre avec de la crème fondant dans un four. Ça s'appelait pomme de terre avec de la crème. Oui, pomme de terre avec de la crème dans un four, quelque chose comme ça. Donc on voyait qu'il y avait une pomme de terre dans un four avec de la crème. J'étais, mais marrant, quoi. Et c'est tout petit.
Et ça dégoulinait.
Ouais, alors ça dégoulinait sur le dessin. Alors Oldenburg est capable de faire des choses. Vous avez peut-être vu, par exemple, d'Oldenburg, une pièce monumentale qui présente une immense fourchette avec des spaghettis au bout.
Ah oui,
David, pas des blocs, mais Jeff Kunst. dont on a parlé, c'est un livre qui est actuel, hein. Avec, vous savez, ce qu'on vient de mettre à Paris, près du dernier rond-point, là. C'est ça, mais 50 ans après. Ok ? Voilà. Voilà. Mais évidemment, c'est une période dont on ne parle pas trop, finalement. Je m'en aperçois, vous voyez. C'est là, on parle de ce qu'il y a avant, on parle de ce qu'il y a après. On n'est pas du tout choqué par, encore une fois, Jeff Koons et ses gros, gros doudous, où on était toujours en plastique. Là, on est avant, et finalement, ça a toujours un pouvoir d'étonnement. L'apprivoisement, votre mot, c'est bon. Je crois que c'est vachement important. Mais encore une fois, moi, à titre personnel, vous me donnez un Raymond Hens, mais bon, il faudra vous cotiser.
Ah ben oui.
Je vous en rends jamais. Enfin, je me donnerai amusé après, parce que j'estime que c'est un bon conseil dans l'idée. Mais donnez-moi un Raymond Hens, je serai au centre. Mais je vous dirai la fois prochaine lequel je. J'essaie d'en choisir un pas prochain. Bon, allez, la semaine prochaine, on ira. Pas... Oui, c'est la semaine prochaine. On ira voir des choses un peu plus calmes.